Bienvenue dans Questions de recherche, questions d'actualité, le podcast de l'IRDES, Institut de recherche et documentation en économie de la santé.
Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes jouent un rôle majeur dans la qualité de l'accompagnement des personnes qui ont des besoins d'aide à l'autonomie. Les EHPAD accueillent en effet plus de 600 000 personnes, dont 200 000 nouveaux résidents chaque année. Pourtant, depuis quelques années, les scandales ont dégradé l'image de ces établissements et on parle de crise de qualité dans le secteur. Alors, est-ce que l'EHPAD, son organisation et son financement permettent de répondre aux besoins de soins et d'accompagnement des personnes accueillies ? Pour y répondre, nous recevons Anne Penaud. Anne, bonjour.
Bonjour Anna.
Vous êtes économiste de la santé et maîtresse de recherche à l'IRDES. Vous avez publié plusieurs articles qui interrogent la qualité des soins en EHPAD. Le dernier en date porte sur l'impact de l'entrée en EHPAD sur la prescription potentiellement inappropriée de benzodiazépines. Et vous l'avez écrit avec Sylvain Pichetti, Marc Perronin et Blandine Juillard-Conda. Pour commencer, Anne, pouvez-vous nous dire qui sont les personnes accueillies en EHPAD ?
Donc les profils de personnes accueillies en EHPAD, il y en a plusieurs. Le premier, le principal, celui qui est le plus fréquent, ce sont des personnes atteintes de maladies dites neurodégénératives de type Alzheimer, qui sont en général très âgées, souvent des femmes de plus de 80 ans. Elles représentent à peu près la moitié des résidents et ce profil de personnes entre en EHPAD quand l'accompagnement à domicile n'est plus possible. Le deuxième type de profil, c'est le rôle joué par l'établissement pour accompagner la fin de vie. En effet, il y a des profils de personnes qui vont entrer en EHPAD et résider très peu de temps. Par exemple, une personne sur quatre réside moins de 3 mois en EHPAD. Et ces profils-là donc, vont être souvent dans des accompagnements de fin de vie et une rentrée tardive en EHPAD. Mais même les personnes qui sont en EHPAD depuis plusieurs années, bien souvent finissent leur jour dans l'établissement. Il y a aussi deux autres profils qui, eux, sont plus spécifiques, qui sont les profils de personnes très isolées socialement ou encore des personnes qui sont, par exemple, en situation de handicap ou qui ont des troubles psychiques sévères et qui vont entrer en établissement médico-social pour personnes âgées, beaucoup plus jeunes, donc à moins de 75 ans.
Est-ce que vous pouvez nous décrire les types de soins réalisés en EHPAD et la façon dont ils sont organisés ?
Il y a différents soins réalisés dans les établissements. Donc, il y a des soins que l'on qualifie des soins d'hygiène et du quotidien. Par exemple, l'aide à la toilette, l'aide au repas, donc toutes ces aides quotidiennes. Mais il y a aussi des soins qui sont plus médicaux, tels que la distribution des médicaments ou le fait de réaliser des pansements, des injections. Ce sont des établissements qui sont qualifiés de médicalisés. Mais dans la réalité, dans les faits, il y a un niveau de médicalisation qui est relativement faible. La qualité des soins médicaux dépend beaucoup d'acteurs qui ne sont pas directement salariés de l'établissement. Un des principaux acteurs, c'est le médecin traitant de la personne, qui va être, dans la majorité des cas, pas dans tous les EHPAD, mais dans la majorité des EHPAD, va être le médecin traitant de ville qui va venir intervenir dans l'établissement. Donc il peut y avoir plusieurs dizaines de médecins différents qui vont réaliser les soins médicaux des personnes. C'est la même chose pour les paramédicaux, tels que par exemple les kinésithérapeutes ou les orthophonistes. Dans la majorité des établissements, ce sont des professionnels du secteur libéral qui interviennent dans les établissements. Les professionnels de santé qui interviennent dans l'établissement, le responsable majeur est finalement l'infirmière coordinatrice. C'est elle qui va jouer le plus gros rôle de coordination et de réalisation des soins médicaux dans l'établissement, coordination avec les médecins traitants qui viennent du secteur de la ville, mais aussi réalisation des soins quotidiens pour les personnes. Il y a aussi des médecins coordinateurs, ce n'est pas le cas dans tous les établissements, mais ils peuvent aussi intervenir pour la coordination des soins avec l'infirmière coordinatrice. Et ils ont un rôle aussi de sélection des profils de résidents à l'entrée dans l'établissement. En termes de soins d'hygiène et d'accompagnement à la vie quotidienne, les principaux acteurs sont les auxiliaires de vie, les aides-soignantes ou ce qu'on appelle les faisants-fonctions. Ce sont des professionnels qui vont intervenir pour réaliser les soins d'hygiène et du quotidien avec des formations différentes en fonction des établissements ou des profils de personnes. Ces professionnels sont financés sur le forfait qu'on qualifie de soins financés par la Sécurité sociale, mais aussi par le forfait dit de dépendance qui est financé par le département. Et tous les établissements, qu'ils soient publics, privés lucratifs ou privés non lucratifs vont recevoir ces financements de la Sécurité sociale et du département pour réaliser ces soins en établissement. Il existe également d'autres acteurs qui vont intervenir dans les EHPAD, tels que les ergothérapeutes, les psychologues ou encore des coachs d'activité physique adaptée, par exemple. Ces acteurs sont peu nombreux et souvent financés par le biais de financements complémentaires et donc pas perçus par l'ensemble des EHPAD.
Et qu'apporte l'entrée en EHPAD aux personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives ?
Alors, une des raisons majeures qui explique une entrée en établissement est le besoin de sécurisation, avec le besoin de réduire les risques, par exemple, de chute ou de mise en danger qui peuvent être très importantes dans le domicile et qui expliquent que la personne a besoin d'être dans un environnement plus sécurisé et avec un accompagnement plus constant toute la journée et toute la nuit. Les établissements peuvent également proposer des accompagnements spécifiques pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives avec des rythmes adaptés, des professionnels formés à ces maladies et notamment grâce à des financements spécifiques pour accompagner ces personnes. Je pense par exemple au pôle d'activité et de soins adaptés, dit PASA, qui sont des financements complémentaires apportés aux établissements pour des accompagnements spécifiques pour ces populations qui ont des troubles neurodégénératifs. Mais le problème est qu'il y a uniquement une partie des établissements. Aujourd'hui, un établissement sur trois bénéficie de ce type de dispositif, alors que l'ensemble des EHPAD en France accueille des personnes atteintes de ces maladies. Donc, il y a eu beaucoup de rapports, par exemple de l'Inspection générale des affaires sociales notamment, qui ont pointé le manque de médicalisation et aussi d'accompagnement spécifique au quotidien de ces populations dans les EHPAD.
Justement, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'organisation de l'accompagnement de la fin de vie et pourquoi elle n'est pas suffisante selon vous ?
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'acteur principal du soin, donc le responsable des soins des résidents d'EHPAD, est le médecin traitant de la personne, comme au domicile. Ce médecin traitant va aussi accompagner la fin de vie des personnes en EHPAD. Et comme je le disais tout à l'heure, dans la majorité des EHPAD, il y a beaucoup de médecins différents qui peuvent avoir des pratiques différentes. Et dans les établissements, même s'il y a un effort depuis plusieurs années pour améliorer la formation, l'organisation des soins de fin de vie en EHPAD, c'est pas forcément une culture qui est encore très développée. Donc il manque d'organisation, il y a un manque de formation des acteurs, notamment des acteurs qui ne sont pas médicaux, par exemple les auxiliaires de vie qui pratiquent en EHPAD. Et il y a aussi un manque d'anticipation de l'accompagnement de la fin de vie dans ces établissements, ce qui peut créer des transferts hospitaliers qui peuvent être coûteux et qui ne sont pas forcément les plus adaptés.
Vous avez beaucoup travaillé, Anne, sur la question de la qualité des soins en EHPAD. Comment peut-on mesurer cette qualité des soins ?
Alors, c'est une vaste question qui n'est pas posée uniquement en France. Il y a eu de nombreuses recherches, notamment à l'international, dans beaucoup de pays, sur comment mesurer la qualité et quels types d'indicateurs peuvent permettre de mesurer la qualité des soins. Les indicateurs qui sont le plus souvent mobilisés sont les taux d'encadrement, qui mesurent le nombre de professionnels présents auprès des personnes. Le turnover de ces professionnels dans l'établissement, c'est-à-dire le fait qu'ils restent pas forcément longtemps à travailler dans l'établissement et donc il y a un changement de professionnel récurrent. Ça, c'est aussi un indicateur phare de la qualité des soins. La vitesse de dégradation de la perte d'autonomie après l'entrée en EHPAD, donc ça c'est d'autres types d'indicateurs, ou encore la formation d'escarres. Donc les escarres, ce sont des plaies complexes qui se développent lorsque la personne souvent reste immobile, par exemple quand elle est alitée. Il faut bouger ses membres régulièrement pour éviter la formation d'escarres.
Et qu'en est-il en France ?
En France, la question se développe également, notamment avec les travaux de la Haute Autorité de Santé et ses évaluations externes qui se sont beaucoup développées ces dernières années avec la formation de nouveaux guides. Ces évaluations sont beaucoup centrées sur le processus, un peu moins sur les résultats. Et c'est vrai qu'en France, on a pas beaucoup de mesures sur les résultats, notamment sur la dégradation de l'autonomie des personnes après l'entrée en EHPAD. ou encore sur les escarres, même s'il y a une récente enquête qui a été réalisée au niveau national sur les escarres. Mais on a aussi un développement depuis plusieurs années des enquêtes et des exploitations de données administratives qui peuvent permettre de mesurer beaucoup de dimensions, notamment les taux d'encadrement, les turnover, mais aussi de mesurer des événements indésirables, comme par exemple la consommation de certains médicaments pas forcément appropriés, ou alors des hospitalisations qui auraient pu, par exemple, être évitées avec un meilleur appui au sein de l'établissement.
Justement, l'IRDES a réalisé plusieurs études sur la qualité des soins en EHPAD. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Nous avons réalisé plusieurs travaux. Le premier porte sur les indicateurs de qualité que nous avons mesurés, donc par exemple les taux d'encadrement, le turnover, la qualité du bâtiment ou encore les événements indésirables et leur lien avec les prix payés par les résidents. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait une très faible corrélation entre ce prix payé par le résident et nos indicateurs de qualité qui semblent indiquer que le prix ne permet pas d'accéder forcément à une meilleure qualité des soins en EHPAD. Le deuxième travail que nous avons réalisé porte sur les prescriptions de médicaments, notamment sur les benzodiazépines qui sont des anxiolytiques et des hypnotiques qui sont prescrits aux personnes âgées et qui, lorsqu'ils sont prescrits de façon chronique ou avec des doses importantes, peuvent être qualifiés d'inappropriés. Et ce qu'on a observé, c'est qu'à l'entrée dans les établissements, les personnes ont une hausse importante de ce type de médicaments durant les deux premiers trimestres suivant l'entrée. Le troisième travail que nous avons réalisé, lui, porte sur la manière dont les personnes sont accompagnées dans les EHPAD et notamment si les établissements utilisent le dispositif d'hospitalisation à domicile. Donc, les hospitalisations à domicile, ce sont des unités hospitalières qui vont venir dans les établissements pour réaliser des soins hospitaliers et qui vont empêcher du coup un transfert à l'hôpital classique qui va permettre que le soin soit réalisé directement dans l'EHPAD et qui est beaucoup utilisé pour les soins palliatifs et aussi pour les pansements complexes. Donc les pansements complexes, on revient sur les escarres. Donc les escarres vont être traitées par les pansements complexes notamment. Et donc on a essayé d'identifier l'impact de ces hospitalisations à domicile sur la qualité des soins et d'accompagnement et sur les coûts dans les EHPAD. Et ce qu'on a montré, c'est que donc, ces hospitalisations à domicile permettent bien de réduire les transferts à l'hôpital pour un coût hospitalier moins élevé. Et donc, ça montre l'efficience de ce type de dispositif.
Et avez-vous observé que la qualité des soins varie en fonction des établissements ?
Alors oui, il y a énormément d'établissements en France. On a 7500 établissements différents en France qui peuvent varier dans leurs organisations selon le type d'établissement. Ça peut être un type qui peut être lié, par exemple, au fait d'être de venir du secteur privé ou public, du secteur commercial ou non commercial. Mais ça peut aussi venir du type de financement parce qu'il y a des organisations, je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est très complexe, certains financements plus importants des soins qui vont être plus internalisés dans l'établissement. Par exemple, avec un médecin qui va être salarié de l'établissement. Il y a des établissements aussi qui sont rattachés à un hôpital, c'est-à-dire que physiquement, ils sont dans un hôpital. Il y a des établissements qui sont complètement isolés. Il y a des profils d'établissements qui sont très différents. Et forcément, ces profils d'établissements différents peuvent avoir des accompagnements et des qualités d'accompagnement qui peuvent varier. Et donc nous, par exemple, ce qu'on a identifié dans nos travaux sur la benzodiazépine, c'est que les EHPAD qui disposent d'une proportion plus élevée d'infirmières dans leurs établissements ou qui sont rattachés à un hôpital public ont moins de prescriptions potentiellement inappropriées de benzodiazépine après l'entrée en EHPAD. Aujourd'hui, donc, une question importante est donc cette question du niveau de médicalisation avec la peur que les EHPAD ressemblent à des hôpitaux, ce qui est bien souvent le cas dans certains EHPAD physiquement, c'est-à-dire que le bâtiment peut ressembler à un hôpital. Le fait que les professionnels à l'intérieur de l'établissement portent des blouses peut aussi faire penser à un hôpital, alors qu'en réalité, on a un niveau de médicalisation qui est très faible dans ces établissements-là. Donc, paradoxalement, ils ressemblent à des hôpitaux, mais ils sont très, très éloignés des hôpitaux en termes de médicalisation. Et moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ces établissements auraient besoin d'inverser justement ce gradient-là avec un environnement qui soit un lieu de vie au maximum, qui ressemble à un lieu de vie, c'est-à-dire un logement, un lieu de partage, une communauté, plusieurs personnes qui vivent au même endroit. Des professionnels qui sont au maximum habillés normalement, qui accompagnent les personnes. Mais cela n'empêche pas d'avoir un accompagnement médical suffisant et aussi un accompagnement des soins du quotidien qui soit suffisamment important pour respecter les rythmes de vie et l'accompagnement et leurs besoins, que ce soit en fin de vie ou dans les troubles de maladies neurodégénératives.
Pour terminer, quels sont selon vous les enjeux majeurs auxquels le secteur devra faire face dans les années à venir ?
Alors, il y a beaucoup d'enjeux. Le premier qui découle de tout ce que j'ai dit précédemment, c'est un besoin d'investissement dans ces établissements pour adapter l'accompagnement au quotidien, mais aussi au niveau sanitaire des personnes qui sont hébergées dans ces établissements. Donc, ce besoin d'investir dans les établissements et dans le recrutement de personnes pour accompagner les résidents va se heurter à une autre difficulté qui augmente depuis de nombreuses années, notamment depuis le Covid. C'est les difficultés de recrutement dans le secteur de l'aide à l'autonomie et notamment dans les établissements. En 2023, donc, l'enquête de la DRES a montré que 8 EHPAD sur 10 déclarent des difficultés de recrutement. Et donc, c'est un enjeu majeur qu'est l'attractivité de ce type de métier pour pouvoir recruter les personnes qui vont pouvoir accompagner les résidents de façon adaptée. Un autre défi est l'adaptation de l'offre à domicile, en logement intermédiaire de type résidence autonomie et en EHPAD pour répondre au mieux à l'augmentation du besoin. Parce qu'en effet, c'est connu depuis plusieurs années, les personnes qui sont de la génération appelée du baby-boom, donc qui sont nées à l'après-guerre et qui sont très nombreuses, sont en train de vieillir et vont avoir des besoins d'aide à l'autonomie dans les années qui vont venir. Et donc, il va falloir adapter l'ensemble de l'offre du secteur pour répondre à leurs besoins. Donc, un des enjeux majeurs pour le système de santé est d'accompagner cette génération dans son vieillissement de manière adaptée pour que les soins d'aide à l'autonomie soient réalisés au moment propice et que cela évite une dégradation plus rapide de leur santé et notamment des recours inappropriés au secteur hospitalier qui peut être très coûteux. Pour terminer, malgré la connaissance depuis de nombreuses années de ces besoins et de ces défis qui vont augmenter dans les 5 années qui viennent, il y a eu finalement assez peu d'ambition politique pour y répondre, ou en tout cas pas suffisante pour arriver à adapter l'ensemble du système de soins et d'accompagnement en France, que ce soit à domicile ou en établissement, pour les personnes âgées.
Merci Anne.
Merci, au revoir.
Et à bientôt pour de nouveaux podcasts sur le site de l'IRDES. Podcast de l'IRDES numéro 7, enregistré en décembre 2025. Propos recueillis par Anna Marek, réalisation Aude Sirvin.